Ouellet. En direct.
On est comme dans le tombeau, là.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Bon, ça fut une pause un peu chaotique, mais ça arrive. Il n'y a pas de perfection sans le chaos,
non,
comme on dit.
Non, c'est une fois en quatre ans. C'est pas si pire.
On va jaser avec notre chroniqueuse qui a assisté à tout ça, là, probablement. Catherine Loubier qui est là et qu'on accueille, évidemment, comme à chaque semaine. Bonjour, Catherine, comment ça va?
Bonjour, ça va bien, vous autres?
Oui. Ben oui, c'est... Une pause.
La pause,
difficile. Ouais. C'est pas grave, on va s'en remettre, inquiète-toi pas. Merci d'être là. Écoute, ton sujet d'aujourd'hui m'a un peu pas ébranlé, mais je l'avais pas vu passer celle-là. Tu sais, à un moment donné, on essaie de se concentrer sur tous les sujets pour qu'on échappe. Moi, le constat, on va parler d'intelligence artificielle, OK? Mm-hmm. Et le constat que j'avais fait depuis une couple d'années, c'est qu'à toutes les fois que j'allais au Sud, j'avais remarqué qu'aux États-Unis, à la télévision, sur les bords d'autoroute, dans les transports en commun, il y avait énormément de publicité sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour votre compagnie? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour votre gestion, pour votre ci, pour votre ça? Et il y avait une panoplie d'applications puis de compagnies qui faisaient de la pub, qui s'affichaient. Alors qu'ici, je voyais pas ça du tout. Tu sais, ici, au Québec, on ne parle pas de ça. Mais là, tu sembles me dire qu'aux États-Unis, c'est pas vu tout dans le positif, tout ça, là.
Ben, en fait, c'est que qui dit intelligence artificielle dit besoin en énergie,
oui,
et en eau, ou en tout cas en mécanisme de refroidissement des centres de données. Et donc, tu sais, si on prend le portrait, là, c'est peut-être pas exact, là, mais il y a à peu près 5500 centres de données opérationnels, wow, aux États-Unis. Il y en a 900 méga qui sont en planification, ce qui veut dire qu'on passe à peu près de 17 000 mégawatts à 300 000 mégawatts de capacité. Et ça crée une demande extrême parce que ces centres de données-là s'installent dans des petits villages, hein, partout aux États-Unis. Par exemple, il y en a 17 qui sont en sous construction en ce moment au Michigan. Et ce à quoi on assiste, c'est vraiment une rébellion américaine. Oui. C'est quelque chose, j'ai rarement vu ça. C'est en accéléré. Donc, ce qui fait qu'il y a des cérémonies d'ouverture qui sont prises d'assaut par des gens qui viennent les huer. Il y a des centres de données, les entrées sont bloquées. Il y a eu des cocktails Molotov de tirer, wow, sur des maisons de dirigeants de compagnies qui tirent de l'intelligence artificielle beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, c'est une crise qui va très rapidement, mais l'intelligence artificielle s'implante de manière très rapide aussi dans,
ouais,
nos vies.
Ouais.
Et donc, la consommation électrique des centres de données, ça a un impact dans toutes ces communautés-là. Écoute, il y a des reportages où on voit des séances de conseil municipal avec des gens qui pleurent, qui crient. Ils se disent, mais attendez, là, ces centres de données-là, ils sont gigantesques. C'est presque des villes. C'est vide d'humain et ça prend toute notre énergie. On se fait dire, votre énergie, le coût de votre énergie va augmenter parce qu'on a besoin de la donner à ces centres de données-là. Ça a même influencé la course au poste de gouverneur en Virginie l'an dernier. Et puis, il y a beaucoup de scrutins locaux qui ont été complètement bouleversés par ça, surtout dans des villes comme l'Ohio et l'Illinois où il y a vraiment un mécontentement qui est organisé.
Parce que là, tu me parles de cocktail Molotov, tu sais, c'est gros, là, c'est comme tu dis, une quasi-rébellion. C'est vraiment l'enjeu, c'est quoi? C'est l'eau?
L'enjeu, c'est que c'est un sentiment très négatif parce que les gens voient ça arriver dans leur petite ville. Imagine-toi, tu sais, je sais pas moi, à Limoilou, il y a un centre de données absolument gigantesque qui pousse, puis là, ça fait monter le prix d'énergie pour des gens qui payent déjà cher, pour les citoyens de ce patelin-là.
Ouais.
Ça prend de l'eau. Donc, les gens se disent, attends, là, qu'est-ce qu'on a, nous, en échange de ça? Absolument rien.
Ah, puis il y a des États qui ont des enjeux d'eau. Tu sais, tu me parles d'Arizona, tu me parles de... Tu sais, il y a des États où l'eau, c'est un vrai problème.
Les gens, oui, puis ont l'impression d'être assiégés. Mais tu n'as pas besoin d'avoir des problèmes d'eau pour avoir une opposition qui s'organise, là, je vais te le dire. Là. En plus de la hausse des prix de l'énergie qu'on connaît, ça crée une autre couche qui donne de l'anxiété aux gens en disant, Hey, on s'en va dans un mur, là. Et c'est rendu que les législateurs ont peine à légiférer sur comment vont fonctionner ces centres de données-là. Donc, il y en a beaucoup qui se faufilent en ce moment pour s'installer. Et il y a des nouvelles facturations. Imagine si ton énergie, toi, au Québec, on est bien, là. On est protégé par, en tout cas, la CAQ dans le coût de notre énergie. Mais si ça multipliait par 2, par 3, par 6 demain, parce qu'on accueille... Ouais. T'sais? Et donc, il y a vraiment une vague de colère épouvantable. Il y a des projets qui commencent à être bloqués ou retardés. Il y en a pour 156 milliards qui ont été bloqués ou retardés l'année dernière, selon le Data Center Watch. Mais quand je te dis qu'ils sont en maudit, le cocktail Molotov, c'était sur la maison du DG de OpenAI, là, wow. Sam Altman. Il y a eu des menaces jusque chez lui, à sa maison. Et puis, il y a eu 13 coups de feu qui ont été tirés sur la porte d'un conseiller municipal en Indianapolis qui avait approuvé récemment un centre de données. Il y a un autre exemple là, dans la ville de Festus, au Missouri. Ils ont destitué 4 membres du conseil municipal une semaine après qu'ils aient approuvé un centre de données de 6 milliards de dollars. Et il y a beaucoup, beaucoup d'Américains ouais. qui s'organisent sur des groupes Facebook, etc. Donc,
et on n'a même pas... Puis là, tu me parles juste de ressources. Tu sais, tu me parles d'énergie, tu me parles de l'eau, tu me parles de... Et moi la question avec l'IA, puis c'est pour ça aussi je commençais avec ça, dans le sens où aux États-Unis, on dirait qu'on a pris pour acquis que ça va être ça et il faut aller vite et on développe et la pédale est au plancher. Ici, bon, des fois, peut-être qu'on est un peu en retard en général, disons, sur les technologies, mais peut-être...
Pas
ça,
vraiment.
Mais ça peut...
Pas vraiment en retard. C'est parce qu'on sent... Peut-être qu'on en parle moins, mais dans notre vie de tous les jours, l'IA est là.
Bien, moi, mon problème, dont... Catherine, c'est que je trouve qu'on n'a ouais. pas encore pris le temps. Puis je comprends qu'on m'explique souvent qu'on n'a pas le temps de prendre le temps. Ça devient une double négation, là. Mais on n'a pas pris le temps de mesurer tous les impacts encore de l'intelligence artificielle dans nos vies, mais tu sais, on parle souvent juste de l'intelligence artificielle comme si c'était ChatGPT, mais c'est pas ça, là, tu sais. Puis je comprends que la Chine, elle apprendra pas le temps, puis elle va prendre le contrôle, puis on est comme pas le choix d'y aller, mais il y a beaucoup de questions sans réponse dans le monde de l'intelligence artificielle.
Énorme. Là. Et c'est ça. Donc, il y a des mères aussi dans ces assemblées-là où ça brasse qui se disent, mais nos enfants à l'école, l'IA, c'est quoi l'impact dans leur vie, les jobs qui se perdent aussi, beaucoup de jobs. C'est des dizaines de milliers d'emplois qui sont remplacés par l'IA, que ce soit pour des opérations de base qui peuvent être faites toutes par l'IA, dans des banques, par exemple, qui mettent à pied, ou chez Amazon, par exemple, qui mettent à pied beaucoup de monde parce qu'ils sont remplacés par l'IA. Il y a même au Japon des robots maintenant qui font la manutention de bagages dans l'espace sécurisé. Donc, l'IA, ça crée de l'anxiété. Mais ce dont je parle précisément, c'est que cette IA-là qui augmente, on a besoin de centres de données pour tout ce data-là. Et ça, c'est quelque chose qui va tellement vite que je ne suis pas sûre qu'on s'en rend compte, effectivement. Mmh. Et on n'est pas à l'abri de ça parce que tous les pays vont devoir avoir une montée des centres de données spectaculaires et ça fait une compétition très féroce pour l'énergie. Vous le savez, au Québec, il y a des années pas si lointaines, on disait « on a trop d'énergie, c'est merveilleux ouais. ». Maintenant, ce n'est plus le cas, mais c'est comme ça partout. Donc, c'est vraiment, même les compagnies essaient de dire « non, on va payer plus pour l'électricité ». C'est un problème pour le président Trump qui est très investi dans l'IA. Même le pape Léon, a fait des avertissements sur l'intelligence artificielle et ses conséquences. Donc, il a écrit une lettre, et c'est clairement une lettre qui s'adressait aux dirigeants de Silicon Valley, sur l'humanité, mais toute la question de l'éthique et l'humanité, mais aussi sur la question ouais. du changement profond que ça cause dans nos sociétés.
Parce qu'ils seront profonds. T'sais, c'est quand on parle d'intelligence artificielle, si on couple l'intelligence artificielle à la robotique, qui est également en explosion, ben là, on a des histoires quasiment de films de science-fiction, là, où les usines sont remplies de robots qui savent exactement quoi faire au millimètre près. Mais la question existentielle demeure. Là, on tombe... C'est la première fois, je pense, qu'on tombe dans une zone philosophique à ce point-là. Mais à quoi on sert, à nous autres? Qu'est-ce que va faire l'humain de demain? Il va regarder des robots?
Je t'en pose une autre. Oui. Si toutes nos transactions puis nos opérations essentielles, stratégiques, vitales, sont faites par des données... Qu'est-ce qui arrive à l'époque quantique quand quelqu'un est capable de craquer le code de la cybersécurité de toutes ces données-là?
Ouais.
Ah non, et ça, c'est pas.
Puis c'est
pas
comme si on n'avait pas le temps, puis on se fait dire, on n'a pas le temps de penser à ça. Il faut y aller parce que la Chine y va. Fait que si la Chine y va, on va prendre du retard, il faut y aller vite.
Bien, la
vite,
Chine ça, fabrique. Oui, puis dans le cas de la Chine, c'est surtout qu'elle fabrique les microchips
oui.
Qui sont à la base de plusieurs de ces opérations-là, qui sont modernisées. Et nous, on ne la fabrique pas, hein, ou à peine. Donc, ça, c'est un gros, gros, gros avantage qu'a la Chine avec son emprise sur Taïwan, qui est le centre mondial des microchips.
Josette, petite Josette sur l'Alberta, il nous reste 2-3 minutes. Là. L'Alberta. Oui. L'Alberta qui, my God, moi, je disais ça il y a 10-15 ans en blague. Je disais, regarde, bien, l'Alberta va se séparer avec le Québec. T'sais, on est tellement, nous autres, on attend, puis on tergiverse, puis on ne sait pas trop. Puis l'Alberta va y aller. Bien là, Colin, il y a un vrai mouvement d'indépendance en Alberta.
Absolument.
Qui est semblable au nôtre en proportion, c'est-à-dire 30% où à peu près des gens appuieraient un Alberta indépendante. Il y a eu l'histoire de la question référendaire qui a été annulée par une juge, by the way, une juge qui avait été nommée à l'époque de Justin Trudeau par le ministre. Qui est tombé dans les scandales, là, j'oublie son nom. L'avais-tu pogné celle-là, Catherine?
Non, je ne sais pas de qui tu parles.
La juge qui a annulé la question référendaire, qui fait que là, on a une genre de sous-question référendaire qui va être posée. Ouais. C'est une juge qui a été... Ah, je l'ai retrouvée ici.
Ah, le ministre Mendicino.
Exactement!
Oui.
C'est notre M. Mendicino qui avait nommé cette ministre-là qui est venue annuler un peu la question, ce qui fait que là, on se retrouve avec une espèce de question pas claire. Là. Est-ce que vous voulez faire un référendum pour faire un référendum? C'est un peu ça.
Est-ce que vous voulez qu'on entreprenne un processus pour faire un référendum? C'est pas clair, mais bon, est-ce que c'est bon ou mauvais de pas être clair? Moi, la mise en garde que je fais, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires en ce moment sur cette histoire de l'Alberta et qui sont... écoute, on ne traite pas du tout la question référendaire qui est pourtant... Tu l'as dit, crédible, plausible. Il y a une bonne partie de la population qui est engagée dans un processus où l'Alberta veut se séparer. Et on ne traite pas du tout l'Alberta comme on traite le Québec avec sa propre impulsion séparatiste.
Non,
son parti, le PQ, qui est représenté et qui va peut-être gagner l'élection. En plus, on a le Bloc à Ottawa. Et donc, c'est au cœur de la nature de la fédération. Pourquoi le Québec peut se questionner sur sa place au Canada, mais pas l'Alberta? Moi, c'est la mise en garde que je fais. Respectons le processus que Mme Smith est en train de faire. Beaucoup la coulent en disant, ben voyons donc, elle s'est mis les pieds dans les plats. Peut-être, mais elle a considéré que le pire serait de ne pas le faire. Hein, parce qu'il y a véritablement un mouvement qu'on essaie d'amenuiser.
Et elle n'est pas indépendantiste, elle le dit. Hein. Moi, je voterais non. Mais je laisse les gens s'exprimer, puis on est en démocratie.
C'est quand même bien tiré par les cheveux, là, tu sais, parce que dans le fond, au lieu d'y aller de juger que, je sais pas moi, dans 2 ans, si la tendance se maintient, on va faire un référendum et les gens décideront bien, OK? Là, il faut commencer par demander, si vous voulez, un référendum. Fait qu'on va faire voter le monde sur... Est-ce que vous seriez ouvert à l'idée?
Bien, la première question a été annulée par une juge fédérale.
Mais c'est quand même...
Oui, mais ça s'appelle gérer. Puis il ne faut pas oublier que ce soit en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, il y a des lois sur les référendums.
Oui.
Et c'est sa job de l'appliquer. Et donc, dire qu'il pose la question... il y a quand même un tiers des Albertains qui choisiraient de commencer un processus vers un référendum, puis 3 sur 5 disent non, l'Alberta devrait rester une province, on ne veut pas de processus sur une question référendaire.
Hein?
Puis 50% disent que la question d'octobre est confuse. Quand est-ce qu'une question n'est pas confuse?
Bon,
l'autre affaire, c'est qu'en disant, en étapant, en faisant de l'étapisme avec la question d'un référendum en Alberta, est-ce que ce n'est pas responsable? De dire, c'est pas une question à la légère, là. Il faut y aller par étapes, il faut respecter les lois qui sont en place.
Oui.
Et on peut pas juste l'ignorer, parce qu'est-ce qui va arriver si on l'ignore?
Et Mark Carney...
Il y a des forces en présence, là.
Ben oui. Mark Carney, ça va dire que c'est un Brexit, là. C'était pas le best non plus, là.
Puis l'autre affaire, c'est que Mme Smith, elle gère aussi son parti, là, Patricia. Tu sais, le UCP, là, il y a un tiers des membres qui le veulent, le référendum. Donc, si elle n'écoute pas, son parti va éclater. On l'a vu avant en Alberta, c'est très fragile.
Je trouve qu'en fait, ce que je dénonce, c'est l'étape de trop. Mais je comprends qu'elle subit, puis elle doit suivre les règles. C'est le Canada qui met des bâtons d'un rouge. Tu sais, je comprends ça. Mais je trouve que quand on prend un pas de recul, quand même, je sais que le but, c'est de décourager. Puis plus que tu fais d'étapes, plus que tu dilues, OK? Mais je me disais, ben, c'est quand même étrange qu'on doit poser la question à savoir si t'es intéressé qu'on te la pose vraiment.
Bien, c'est parce qu'ils voulaient poser directement, mais ça a été invalidé à cause justement de la loi référendaire. Mais là, ils sont obligés de serpenter autour. Ouais. Là,
ben, le fédéral, en fait, c'est un juge. Donc, c'est complètement séparé, l'exécutif puis le système de justice. Oui, mais bon, c'est indépendant.
Ouais.
Je pense qu'elle poursuit la voie démocratique dans le contexte d'une loi sur le référendum puis dans le contexte du jugement qui a été fait. Mmh. Et je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère.
Non.
Et il faut... Et si on... Il y a certains commentaires, je me suis amusée à remplacer Alberta par Québec.
Oui.
Ben vous le ferez, puis vous verrez comment vous vous sentez.
Oui, mais au Québec, c'est pas pareil. Catherine, nous autres, c'est
non,
culturel.
Ben non, c'est pas pareil. Mais c'est ça que j'essaie de dire.
Ben oui, ben oui.
Il faut voir la réalité pour ce qu'elle est en Alberta. Ouais. Là. C'est pas, hey, on n'est pas rendu là par hasard.
Puis en terminant, si on échoue en Alberta, est-ce qu'on sera mort? Ça serait drôle, là, avec un bloc albertain à Ottawa.
Oh.
Ben, c'est
là, chaque province ça, là. Aurait son bloc. Finalement, on sera plus une fédération de facto, là.
Ouais. C'est, tu sais, puis c'est une question, là, c'est un test pour Mark Carney. Stephen Harper en a eu des tests. Il y en a eu en masse.
Ouais.
On passera pas beaucoup de temps sur la chronique, là, à ça, mais là, il y a un test pour M. Carney qui a dit c'est un bluff dangereux, ça a irrité encore plus les partisans du référendum. Il y a de comparer ça à Brexit, ça a eu des conséquences. Ça a dramatisé un peu cette histoire-là. Il a été vu comme paternaliste.
Ouais.
Donc, c'est Monsieur Canada, pas juste pour les relations internationales.
Ouais.
C'est Monsieur Canada pour l'unité nationale.
D'ailleurs,
on va le regarder.
Il a fait sa petite saucette à New York. Là, il fait ça là, de même et jeudi. Finalement, les États-Unis, c'est pas si pire. On s'en reparle la semaine prochaine. Merci, Catherine.
Ben, il suit les pas de Pierre Poilievre. Allez, à la prochaine.
C'est salut,
les amis.
Salut, bye.
Salut.
Catherine Leloubier. Merci d'être là, Catherine. 13h35, on fait une pause, on vient.
Ouellette, en direct.
Radio X.